Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Elle est parfois dramatique. D'autres fois, satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
Sophie Durocher.
Alors, j'ai lu au cours des derniers jours un livre que je vous recommande fortement. Ça s'intitule « Sans consentement, 30 scandales sexuels qui ont changé le Québec ». Parce que c'est vrai que si on calcule au cours des, mettons, des 15-20 dernières années, il y en a eu, hein. Il y a eu Guy Cloutier, il y a eu André Boisclair. Il y en a eu vraiment des tonnes et des tonnes et des tonnes. Gilbert Rozon, évidemment. Comment l'oublier? Ben, Michel Morin, qui a écrit ce livre-là, recense donc toutes ces histoires et réfléchis, prends un pas de recul, puis dis qu'est-ce qu'il y a en commun entre tout ça. Michel Morin, bonjour.
Bonjour.
Quand on lit votre livre, on se rend compte que dans l'affaire Marcel Aubut, dans l'affaire Michel Brûlé, mm-hmm. dans d'autres affaires aussi, mm-hmm. une fois que ces gens-là se font mettre la main au collet, il y a plein de gens qui sortent en disant « Oh ben tout le monde le savait, on le savait que c'était un taponneux, un frotteux, un ci, un ça. » Comment ça se fait que ça prend ça pour que les gens... se révoltent et disent quelque chose. Pourquoi ils ne disaient pas quelque chose avant que la justice s'en mêle?
C'est vrai que les réactions de l'entourage sont souvent à retardement. Dans le cas de Brûlé, dans le cas de Michel Brûlé, il y avait le côté, puis dans le cas d'Éric Salvaille, puisqu'on en parle,
oui.
il y avait une espèce d'omerta de gens dont la job dépendait d'eux.
Mm-hmm.
C'est ça qui arrive. Fait que les gens donc, qui travaillaient dans les productions d'Éric Salvaille, par exemple, ne voulaient pas se le mettre à dos, même s'il créait des malaises, je veux dire, à peu près à tous les jours. Dans le cas de Brûlé aussi, les gens qui travaillaient aux mm-hmm. Intouchables, puis je l'ai connu un peu Brûlé.
Oui, à un moment donné, il y a une de ses collègues qui ouvre un tiroir aux éditions Michel Brûlé, puis il y a des photos de Michel Brûlé en train de se faire faire une fellation.
Ouais.
Plusieurs photos.
Donc cet homme, écoute, Brûlé faisait des voyages. En Thaïlande, et on sait le genre de voyage qui se fait là pour certains pervers comme lui. Et il en rapportait des photos. Il était tout fier de montrer ça. Il s'assumait comme pervers. C'était assez particulier, Brûlé.
Ouais.
oui.
Alors donc, il y a beaucoup d'histoires que vous décortiquez dans mm-hmm. ce livre-là. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'après chacune des histoires, vous soulevez des questions de droit.
Ouais.
Bon, vous le savez peut-être, moi, ça fait comme 92 milliards de chroniques que j'écris sur ça. Ouais. Sur ces dossiers d'inconduite sexuelle. Et il y a une chose qui me frappe, Michel, et j'espère que vous allez trouver la même chose que moi, c'est que les gens ne font pas la différence entre... le Québécois moyen ne fait pas la différence entre allégation, accusation, être trouvé coupable au terme d'un procès et... Ouais. plaider coupable et ainsi éviter un procès. Ils ne font pas la différence entre une présumée victime, une plaignante. Bref, il y a un travail d'éducation, pas condescendant, mais juste d'éducation des gens pour clarifier ces principes-là.
Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ça, c'était un des pièges qui me guettait dans l'écriture, dans le sens que tous les dossiers où on était dans les allégations, où il n'y avait pas de mise en accusation, il n'y avait pas de plainte aux autorités, puis le DPCP n'intervenait pas, j'utilisais
le conditionnel.
Alors,
voilà.
Je marchais sur des œufs, j'utilisais
le
conditionnel. Et puis, c'est ça. Mais dans 2 cas sur 3, grosso modo, une vingtaine de dossiers sur les 30 du livre, il y en a 20 sur 30 qui ont été judiciarisés. Dans certains cas, donc, les accusés, comme Cloutier, par exemple, mm-hmm. qui étaient confrontés à une preuve, mais vraiment une preuve béton, n'avaient pas le choix de plaider coupable, on plaidait coupable. Et le reste, il y a eu des procès. Et étonnamment, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a seulement 3
voilà.
cas où il y a
exactement.
Eu des acquittements. Ouais.
Alors là, je suis exactement à la page 234 et c'est exactement de ça dont vous parlez. Vous dites, si on considère les cas répertoriés dans cet ouvrage comme un échantillon, même s'il n'est pas scientifique, il en ressort que la grande majorité des dossiers judiciarisés ont abouti à une condamnation. Donc, sur 19 affaires dont vous parlez dans votre livre, il y en a seulement 3, ça s'est soldé par des acquittements, on les connaît, Rozon, Salvaille, Gomeschi, mais donc, les gens qui disent, la victime parfaite, puis c'est épouvantable, puis ça finit jamais, puis il n'y en a pas assez, puis tout ça, ben, quand même, 3 sur 19 seulement qui ont été acquittés, les autres, ça s'est terminé. Donc, est-ce que vous, après avoir fait toutes ces années de recherche pour le livre, est-ce que vous en ressortez avec une plus grande confiance dans le système de justice?
Tout à fait, puis il y a tellement de grandes évolutions. Il y a un des chapitres où je parle des règles qui prévalaient jusque dans les années 80 au Canada en ce qui concernait l'administration de la preuve dans des dossiers, dans les accusations pour des crimes sexuels. C'était fou à quel point les victimes, surtout les filles, partaient avec deux prises. Mm-hmm. C'était les règles ça prenait une corroboration d'un témoin, alors que ce sont des infractions qui se commettent sans témoin. Il pouvait faire la preuve de mauvaise réputation de la plaignante. Il fallait, si c'était pas une plainte spontanée, le juge pouvait dire, écoutez, au jury, par exemple, écoutez, ça a pris 2 ans, madame, avant que porte plainte, alors on peut remettre en doute sa crédibilité.
Maintenant, on appelle ça des mythes et stéréotypes, et les mythes et stéréotypes sont interdits dans les cas d'agression sexuelle. Donc, je trouve que c'est important, ce livre-là, Michel, parce que je pense que pour beaucoup de gens, ça, le fait de les avoir histoire après histoire après histoire après histoire, ça va montrer à un grand nombre de Québécois que, grosso modo, quand même, justice est rendue. Je veux juste soulever quelques petits points avec vous. À un moment donné, évidemment, vous consacrez tout un chapitre à l'affaire Guy Cloutier et il y a des détails vraiment dégueulasses que j'avais oublié dans le cas de ses agressions contre Nathalie Simard. À un moment donné, semble-t-il qu'il aurait dit à Nathalie Simard qu'il souhaitait qu'elle ait je m'excuse pour ceux qui écoutent, là, mais c'est sa réalité à Nathalie, qu'il aurait souhaité que Nathalie ait un sac en papier sur la tête et que tous les amis de Guy Cloutier viennent la violer tour à tour et que ce soit lui qui décide quand ça commence et quand ça s'arrête.
C'est absolument sordide.
Absolument sordide et répugnant.
Ouais, et l'épisode de la robe du village de Nathalie
c'est
aussi.
C'est dégueulasse aussi. C'est donc, vous lirez ça dans le livre. Par contre, je vais vous faire soulever une question avec vous. Vous dites que, évidemment, il ne faut pas, et au Québec, on a été très bon là-dedans, que les membres de la famille Cloutier portent l'odieux de ce qui s'est passé. Par contre, vous omettez de dire, mon cher Michel, que lors du bye-bye de 2009, qui était préparé par Véronique Cloutier et Louis Morissette, on a ridiculisé Nathalie Simard en faisant des jokes de pète. Ça a profondément blessé Nathalie Simard. Et beaucoup de gens au Québec ont eu un malaise parce qu'ils se disaient, Véronique Cloutier s'associe à une émission où on ridiculise la victime de son père. Personnellement, je l'aurais mentionné dans le livre.
Mais savez-vous quoi, Sophie? Vous me l'apprenez à l'instant. J'ai jamais entendu parler de ça. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé le bye-bye et je savais pas ça. Mais le paragraphe à la fin du chapitre sur Cloutier, que je ne ménage pas, disons-le, c'est simplement pour dire que, contrairement dans beaucoup de cultures, vous n'êtes pas sans le savoir, surtout quand la religion s'en mêle. Souvent, la faute du père retombe sur les enfants. Et ce que je disais dans le livre, c'est simplement que, Dieu merci, dans le cas de Véronique, qui est bourrée de talent, ça n'a pas vraiment nuit à sa carrière, le fait
tout
que
fait.
Son père a
et
été...
J'en suis, et j'en suis, oui, mais je pense simplement par décence pour Nathalie Simard, je trouve que ça aurait été important.
Mais je ne savais pas, Sophie.
Je vous l'apprends.
Ouais, okay.
Bon, vous parlez à un moment donné de l'affaire Gomeschi. Et ça, c'est intéressant, l'affaire Gomeschi. Donc, même si ça ne s'est pas produit au Québec, on en a beaucoup parlé au Québec, animateur de radio de CBC, qui a eu un procès. Et parce que beaucoup de gens au Québec ont tordu les faits dans l'affaire Gomeschi. Et moi, je suis contente parce que vous remettez les affaires au clair. Il faut rappeler que les plaignantes, donc il y en avait 3, il y en a une qui a menti à la cour et à ses procureurs. Il y en a une qui a omis des informations et il y en a 2 qui se sont parlé et qui ont échangé, pas juste quelques courriels, 5000 courriels.
Ouais,
c'est pour ça que la cause est tombée.
Et tout à fait. Et une collusion comme ça entre témoins, et de toute façon, le côté, là, on va avoir sa peau, le salaud, et on va. Les juges ont tout dit
ça. C'est ça, les femmes se disaient ça entre elles.
Effectivement,
c'est ça, c'est important de le dire.
Et ça a été un chapitre qui était long à écrire, Gomeschi, parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements et tout ça. Mais oui, en effet, et c'est un des chapitres avec lequel, non, celui sur Salvaille, où le côté. Préparation des témoins, c'est tellement important dans ces affaires-là. Un témoin doit être bien préparé et il y a plein de garde-fous qui doivent être installés pour pas que les témoins...
Mais en même temps, je vous dirais, Michel, la meilleure façon de préparer un témoin, c'est de lui dire, dis la vérité.
Ça, c'est certain. Oui.
Et c'est, il n'y a pas d'autre parce que l'avocat de Gomeschi, oui, c'était une pitbull, c'était ça, mais est-ce qu'elle a fait? Elle a fait son travail. Elle a démontré que les plaignantes avaient menti. À la cour, menti aux policiers. C'est quand même quelque chose. Donc, donc vous en retirez quoi comme leçon ou comme conclusion, le mouvement MeToo donc a produit ça.
Tout à fait. Écoute, si ce livre aurait jamais pu être écrit il y a 20 ans, il y en avait à toute fin pratique. Pas de scandale sexuel au Québec. Et ça a été une avalanche depuis, en particulier depuis octobre 2017, bien sûr, la première vague de moi aussi. Et c'est la deuxième vague en juillet 2020 où il y a eu Marie-Pierre Morin, où il y a eu Julien Lacroix, où il y a eu Yann Perrault, il y en a eu
plein. Julien Lacroix n'est pas dans votre livre, hein?
Sophie, je te voyais venir. C'est que... Et écoute, si j'ai une minute, Julien Lacroix, c'est le chapitre sur lequel j'ai consacré, auquel j'ai consacré le plus d'heures. Il y a dû y avoir 5 versions. Et si on se rappelle bien, dans un premier temps, je veux dire, reportage choc
l'enquête
dans la presse,
de la voix.
9 victimes qui dénoncent les inconduites sexuelles de
non,
Julien.
Non, ça, c'était dans Le Devoir.
De Julien Lacroix. C'était dans Le Devoir.
Oui.
Et qui dénoncent les inconduites
contre
de Julien
Lacroix. Contre-enquête dans la presse.
Contre-enquête en novembre 2022, 2 ans et demi plus tard. Et on rétablit un peu la réputation de Julien Lacroix dans le sens qu'il y a 5 des 9 filles qui reviennent en partie ou complètement oui. sur leur déclaration.
C'est pour ça que vous avez décidé de l'enlever du livre.
On
ne
savait plus quelle posture adopter dans ce dossier-là, dans le sens que la peur, et c'est la peur.
Est-ce que c'est les avocats de la maison d'édition?
Non, honnêtement. Non.
C'est
mais,
vous?
Mais il y a eu beaucoup de discussions avec l'éditeur là-dessus. Il a été retiré en décembre 2020 parce qu'on ne voulait pas banaliser les comportements de Julien Lacroix. On ne voulait pas non plus les dramatiser. On ne savait plus sur quel pied danser. Et comme on voulait arriver aussi au chiffre 30, ben, il fallait en couper un chapitre. Puis on a dit, écoutez...
Ben, ça aurait été sympa de redonner à Julien la vérité de son témoignage. Mais bon, peut-être...
Ouais.
Savez-vous quoi? Dans le prochain livre.
S'il y a un tome 2, oui.
Merci. Donc, il y avait sa pitch sur Julien Lacroix qui a été enlevé. Bon, on a notre scoop concernant votre livre. Merci beaucoup, Michel Morin. Ça s'appelle « Sans consentement, 30 scandales sexuels qui ont changé le Québec ». Ça a failli être 31, mais il y en a 30. Merci beaucoup.
Merci.